Le réseau Afrique Santé de la Voix de l'Amérique propose.
Votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir est exclusivement axé sur la lutte contre le sida en RDC.
La semaine dernière, le ministre de la Santé de la RDC, M. Félix Kabange-Numbi, nous a exposé le plan de riposte de l'État congolais dans ses moindres détails. Aujourd'hui, nous allons explorer la situation de Ebola en RDC avec un accent particulier sur les populations. Nos invités sont...
Je suis Dr Chedolomi Kalema, conseiller médical du ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Pour votre santé et votre avenir, je suis content de participer à cette émission et je suis avec vous. Merci.
Merci Dr Lomami, gardez l'écoute. Nous serons aussi avec...
Je suis Nathalie Dylaine, la coordinatrice des urgences pour les frontières au Congo et je suis ravie de participer à votre émission « Votre santé et votre avenir ».
Merci Nathalie, gardez la ligne. Nous travaillerons aussi avec nos reporters qui ont travaillé sur, qui ont fait des enquêtes sur le sujet.
Contrairement au VIH-Sida, Ebola est le chemin qui mène tout droit vers le cimetière. Goma, Mustapha Kemal.
Face au virus Ebola, la population est invitée au respect des mesures élémentaires d'hygiène. Ici Kananga, Patrick Mukengeshai.
Au Kasaï oriental, les autorités passent des messages de sensibilisation contre Ebola à la radio et à la télévision. De Mbujimayi, Jean-Hubert Bondo.
Nous aurons aussi la participation d'auditeurs de Votre Santé, Votre Avenir. D'abord, Jolie Johanna, juriste à Kisangani. Jolie, bienvenue sur Votre Santé, Votre Avenir. Bienvenue.
Oui, bonjour Khalil, bonjour à tous les invités. Merci. Je suis très content de participer à cette émission.
Merci Jolie, gardez la ligne. Nous aurons aussi depuis Goma, Félicien Kitoko. Félicien.
Merci beaucoup Khalil de m'avoir intéressé pour participer à cette émission.
Merci. Docteur, quelle est la situation aujourd'hui de Ebola en RDC? Le ministre Numbi, votre ministre, nous a dit la semaine dernière et m'a dit personnellement d'ailleurs hier qu'il se rendait encore à Djera et que la situation était contenue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comme dernière nouvelle?
Bien, merci pour la question. La situation de l'épidémie de fièvre de maladie à virus Ebola en RDC est celle qui... tel que lu en date du 2 septembre 2014. Mmh. Effectivement, le ministre, le docteur Numbi, Kabange Numbi, s'est déplacé pour superviser l'installation du camp de traitement et de gestion de la riposte à l'épidémie de la maladie virale avec un virus Ebola qui s'est déclaré dans la zone de santé de Boende. Et présentement, comme nous parlons, il est descendu dans ce secteur et il a pris pour se faire un hélicoptère de la MONUSCO qui nous a secouru et nous a aidés. Mm-hmm. En termes épidémiologiques, à ce jour, aux dernières nouvelles d'hier, 2 septembre, nous avons eu, depuis que l'épidémie a été déclarée, une admission de 58 cas cumulés. De ces 58 cas cumulés, nous avons, nous comptons 13 cas confirmés au laboratoire, 22 cas probables et 23 cas qui sont suspects. De ces cas, nous avons donc pu dénombré après investigation 291 contacts. Ailleurs, on dirait 291 contacts. Et comme l'activité est quotidienne, de ces 291 contacts, 285 d'entre eux ont été vus. Parce qu'il reste sous surveillance les contacts pour ne pas les perdre de vue dans les visites journalières. Pour informer l'évolution de l'épidémie, nous avons pu après 20 prélèvements, 20 échantillons ont été prélevés, 18 ont été analysés et 2 sont en cours. De tous les échantillons analysés, nous avons eu 13 échantillons qui sont positifs au virus Ebola. Il faut remarquer que tous les 13 sont des échantillons prélevés dans l'épicentre qui est la zone sensible de Boende. Évidemment, nos épidémiologistes sont au travail sur le terrain pour continuer à fouiller dans la communauté pour savoir s'il y a d'autres suspects, d'autres cas probables qui se seraient cachés dans la communauté. Vous remarquerez que je n'ai pas cité le nombre de décès. Le nombre de décès s'élève aujourd'hui à 15 décès au niveau de l'épidémie en cours. Mais parce que les épidémiologistes sont en train de travailler sur le terrain, ils viennent à l'encontre des nouvelles comportant des décès survenus immédiatement avant l'annonce de l'épidémie. La coutume scientifique veut que ces décès soient investigués pour être ou non reliés à l'épidémie en cours.
D'accord.
Effectivement, certains d'entre eux ont été reliés à l'épidémie en cours. C'est ainsi que nous avons compté pour l'instant, à la date du 2 septembre 2014, 31 décès qui peuvent être dits liés à l'épidémie en cours dans le secteur de Tia.
Nathalie Guylaine, en tant que coordonnatrice de Médecins sans frontières en RDC, vous avez déjà dépêché au moins 2 équipes sur l'Okolia, épicentre de l'épidémie. À quoi ont fait ces équipes sur place?
Oui, donc merci. Donc, je suis la coordinatrice des urgences au Congo pour Médecins sans frontières. Nous avons plus de 30 personnes de Médecins sans frontières sur place, à Boende et à Lokolia, épicentre de l'épidémie. Ces équipes sont en train de mettre en place avec le ministère de la Santé un centre de traitement pour les personnes suspectes et confirmées du virus Ebola. En ce moment même, donc, on est en train de construire ce centre. Nous sommes en train de renforcer en attendant des petites parties de centres de santé pour pouvoir isoler les patients suspects en attendant d'avoir confirmation de leur échantillon, la confirmation biologique de leur échantillon. Nous sommes aussi en train de sensibiliser les acteurs de la santé en termes de protection, sachant que le plus dangereux, en fait, pour les équipes sur place, c'est d'être bien protégés pour ne pas être à risque par rapport à la manipulation de certains malades et de certains corps, notamment lors des enterrements, c'est très critique, puisque toute manipulation de corps ou de fluide d'une personne contaminée peut porter à risque les personnes les touchant. Donc c'est vraiment notre première priorité, c'est que le personnel de santé ou toute personne qui manipule les corps soit protégée. Nous sensibilisons également la communauté pour pouvoir détecter précocement donc les cas dès qu'ils manifestent des symptômes, pour qu'ils puissent être orientés vers les centres de santé et ensuite être analyser, observer et on prend ensuite l'échantillon pour pouvoir l'analyser.
Merci Nathalie. Je me tourne vers le docteur Chedou Lomami. Comment les citoyens congolais qui ont contracté le virus d'Ebola sont pris en charge aujourd'hui par l'État?
Je peux vous dire que tout ce que Mme Nathalie a dit est vrai. Nous avons un centre de traitement qui est érigé à l'Okolia, érigé et tenu d'ailleurs par Médecins sans frontières sur le ministère de la Santé publique du Congo. Nous avons un centre de traitement qui est érigé à Boende parce qu'on a eu un cas qui est venu chuter là-bas et qui est mort. Donc on a pensé à ériger un centre de traitement. à ce niveau-là de prise en charge, nous n'avons pas d'inquiétude parce que on a l'expertise, la ressource qu'il faut pour la prise en charge. Comme vous savez très bien, nous ne sommes pas aux États-Unis d'Amérique, donc on n'a pas de traitement que eux là-bas ont. Nous avons des traitements symptomatiques que nous avons de par l'expérience que nous avons connue de différentes épidémies, que nous avons connues et une expertise qui nous a amené à sauver des vies en pareille situation. Médecins sans frontières, comme Mme Nathalie l'a dit, est en charge de tout ce qu'elle a dit, y compris de la prise en charge des malades au centre de traitement Ebola, en compagnie et en accord avec certains de nos collègues médecins et cliniciens congolais qui prennent ces malades en charge. Ce sont des traitements symptomatiques de remontant, de renforcement de leur immunité ou de l'alimentation, évidemment dans la protection et dans la précaution tant prise par les malades entre eux que prise par, surtout par le personnel infirmier pour qu'ils ne puissent pas se contaminer. Nous avons donc ce problème-là et c'est la contamination pour la lutte contre l'infection au niveau des centres de traitement est prise en charge et les partenaires qui nous ont aidés, le gouvernement qui a financé la lutte, nous sommes conscients de cela et nous travaillons à cela pour éviter qu'il y ait contamination au départ du centre de traitement, contamination des malades vers les patients, vers d'autres membres de famille qui auraient à les visiter, quoique la zone est non accessible, ou des malades vers les personnes de santé. Malheureusement, quoi que nous ayons fait, nous avons eu à enregistrer à ce jour 6 cas de décès d'agents de santé qui sont morts tous avant la déclaration de l'épidémie. Parce que à ce moment-là, la contamination était indiscriminée, étant donné que l'infection se propageait au sein des institutions de santé sans que les médecins ou le aient vu à prendre les précautions d'usage qui sont recommandées en cet instant-là. Mmh. La prise en charge pour l'instant, vous savez très bien que nous avons l'expérience de cette maladie, la prise en charge est bien tenue. Merci à nos partenaires, dont principalement pour la prise en charge médicale, Médecins sans frontières qui est en tête nous. Mais d'autres ont concouru à cette prise en charge. L'État congolais lui-même a démarré l'initiative pour la prise en charge en tant que responsable et expérimenté dans la matière, que nous sommes au-dessus de cette épidémie et que nous pouvons bien dire que nous allons la juguler sans tergiversement comme ça se passe ailleurs dans l'Afrique.
D'accord, docteur, merci. Mais est-ce que concrètement, l'État congolais peut faire face financièrement à la crise Ebola?
Nous n'avons pas caché nos limites en cette matière, monsieur le journaliste. Nous n'avons pas caché nos limites en cette matière. Ayant été le premier à financer la lutte contre Ebola, c'est une première en Afrique, je pense, une première même dans notre pays, la République du Congo. Cette fois-ci, deux jours après l'annonce officielle de l'épidémie, nous avons reçu le financement que nous avons estimé suffisant pour démarrer la riposte. Mm-hmm. Le financement de la République du Congo, donc de son gouvernement. C'est ce qui a permis à M. le ministre de la Santé publique de commencer les préalables à la prise en charge et à la riposte en termes de lutter contre la propagation de l'épidémie. Nous sommes très contents, nous, à la santé, parce qu'on a pu donc avoir les moyens de lutter contre l'épidémie à temps. Précocement, comme nous disons dans la santé, il faut une attaque, il faut une réponse précoce. Nous sommes aussi contents que, par exemple, des partenaires de tous bords, OMS, UNICEF, la MONUSCO, OICHA et d'autres, je ne veux pas.
Jolie John, vous êtes juriste à Kisangani, en province orientale. Avant de passer à votre question, dites-nous de manière générale, comment percevez-vous la menace Ebola à Kisangani?
Bon, la réaction générale, c'est cette psychose qui est née dans la population ici. Parce que vous savez que Kisangani, c'est une grande ville et dans la plupart des cas, les gens vivent à proximité les uns des autres. Donc, c'est vraiment une psychose qui est née dans les mentales des habitants de Kisangani, de la population de Kisangani, et surtout que on ne comprend pas, c'est une maladie. On parle de fièvres hémorragiques, bien sûr. Il y a certains intellectuels qui comprennent ce que ça veut dire, mais les communs de la population ne sait pas. On sait seulement que les malades saignent de partout. Puis ça fait un peu peur, parce que vous savez, chez nous, quand on dit déjà qu'on ne peut pas aller aux funérailles d'une personne qui est morte du virus Ebola, on ne peut pas aller pleurer à la maison. Tout ça, tous les rituels de deuil ne seront pas faits comme d'habitude. Ça crée un peu le questionnement dans la tête de la population. Donc, nous sommes des Africains et on a notre façon de pleurer les morts. Et dès qu'on sera éloigné de nos morts, alors qu'ils sont en train de mourir là où on est, c'est un peu difficile pour la population de comprendre cela.
Oui, on comprend bien ça. Vous avez entendu le docteur Lomami il y a un instant. Alors, est-ce que vous avez une question pour le docteur?
Au fait, j'ai une question, bien sûr. Vous savez, là où la maladie s'est déclarée en province de l'Équateur, c'est en la forêt. Et j'ai entendu dire qu'on a mis la zone en quarantaine, mais dans une forêt, comment est-ce qu'on peut mettre les gens sous quarantaine? Parce que vous savez que cette forêt-là débouche vers les Kasaï, vers l'Omela. Et comment est-ce que les mouvements de la population peut être contrôlé? Parce qu'on peut mettre dans des grandes routes, mais dans des petites artères, là, dans la forêt, on ne sait pas les contrôler. Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'on peut faire pour limiter les foyers de cette maladie seulement là où ça s'est déclaré à l'Oconia.
Merci. Docteur, vous avez entendu la question?
Oui, je suis la question. Merci, j'ai suivi la question. Je suis d'accord avec madame, le Kulia, c'est en pleine forêt équatoriale, c'est vraiment par sa propre position très très enclavée, difficile d'accès et même difficile de contrôler, ça c'est vrai. Mais monsieur le ministre de la Santé publique a été là-bas personnellement et avec les autorités culturelles administratives, on a pu identifier toutes les pistes d'entrée et de sortie sur le Kulia, donc sur le secteur de Djéra. Et ces pistes ont été identifiées. La quarantaine dont on parle, madame, c'est pas qu'on a érigé des haies pour éviter, pour empêcher les animaux de sortir d'une cage. Non. La quarantaine dont on parle, c'est que simplement toutes les pistes naturelles ou usuelles de sortie ou d'entrée dans le secteur de l'IA, toutes ces pistes sont contrôlées médicalement. Nous avons le thermomètre à laser qui est posté à chaque entrée, à chaque piste où il y a un agent de où il y a des agents de santé qui contrôlent les gens qui font des va-et-vient pour sortir de Djéra ou pas. On a déjà commencé à les maintenir dans Djéra pendant 21 jours pour que au tout au moins on s'assure que tout le monde présent dans les cellules de Djéra qui serait malade serait donc pris en charge par notre comité international de traitement des malades Ebola qui est érigé à l'Okolia pour justement éviter la propagation en dehors du secteur de Djéra de cette maladie à virus Ebola. Ces pistes sont donc contrôlées. Même les pistes du fleuve, il y a des hommes qui se questionnent pour contrôler toute entrée et sortie et vérifier. Dieu merci, jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup de mouvements parce que les gens de Djéra sont totalement pris en charge par le gouvernement de la République et ses partenaires. Nous sommes allés au-delà de la prise en charge médicale. Nous avons dans notre judiciaire une prise en charge alimentaire. Vous savez aussi bien, madame ne l'a pas dit, mais je vous le dis, nous avons interdit que pour l'instant il y ait la chasse au gibier sauvage dans le secteur de Djéra, dans la zone santé de Boyende. En renforçant notre mesure nationale, le gouvernement de la province de l'Équateur l'a étendue à toute la province de l'Équateur. Cela, c'est pour aller au-delà et s'assurer que toute la population est bien protégée, bien sauvegardée, de la contamination à ce virus qui a fait éruption tout à fait soudainement dans le secteur de Djira. Maintenant, nous savons très bien que ces gens sont frontaliers à l'Omélar, au Kassai oriental. J'ai personnellement reçu des appels de la zone tendue de l'Omélar dans le Sanko, au Kassai oriental, demandant des équipements de protection parce qu'ils doivent ériger des contrôles dans les points d'entrée ou de sortie qui joignent l'Omela à travers la forêt équatoriale au départ de Boéné. Cela a été fait, j'ai pris bonne note de la demande et nous sommes en train de prendre des dispositions. On a déjà envoyé un lot de thermomètres à la ZEP pour vérifier que toute personne portée de fièvre soit mise en surveillance quelque part pour éviter de propager la maladie. Et les équipements de protection vont les rentrer en veille. Donc, c'est simplement, madame, il y a plus à gagner en veillant à ce que ces gens soient confinés à leur territoire national ou naturel qu'en les laissant se propager dans toute la communauté de l'Équateur. Cela nous met fait tous en danger.
D'accord,
un sacrifice de 21 jours dans le secteur de Gérard va protéger toute une république. On y gagne plus et c'est ce que nous devons faire en tant que responsable du gouvernement.
Merci docteur. Nous allons nous rendre en Équateur d'ailleurs, retrouver notre correspondante Mimi Etaka qui nous fait le point sur Ebola dans sa province.
Parmi la présence de thermomètres laser au niveau des aéroports et ports de l'Équateur, l'autorité provinciale a également interdit la chasse sur toute l'étendue de la province. Mbandaka, province de l'Équateur, Mimi Etaka, votre santé, votre avenir, la voix de l'Amérique, intro sonore. La population de l'Équateur observe comme mesure préventive pour éviter la propagation de l'épidémie à virus Ebola qui sévit à Lokolia et à Djira dans le territoire de Boéné, ne plus se saluer à la main ou par des accolades. Les Équatoriens ne mangent plus la viande. En plus, elles observent attentivement les règles élémentaires d'hygiène afin. Elles regrettent énormément le départ de l'ACF Aviation Sans Frontières. Suivez.
Il faudrait d'abord que la population sache qu'il faudrait assainir l'environnement. Surtout de nettoyer les installations hygiéniques et de ne pas consommer le gibier pour le moment.
Donc nous avons peur que la propagation soit intensive. Dans la province de l'Équateur, on avait une opportunité où il y avait un vol qui aidait un peu pour les transports des malades ou même les transports des médicaments de la province, de la ville, du chef-lieu de la province de l'Équateur pour l'arrière-province, donc particulièrement dans le territoire de Boéné. La compagnie a certainement suspendu ses vols parce qu'il n'a pas de subventions le permettant de voler.
Notons que la population de l'Équateur demande aux autorités d'utiliser en toute responsabilité les fonds alloués pour cette fin. Mbandaka, province de l'Équateur, Mimi Etaka, votre santé, votre avenir, la voix de l'Amérique.
Nous allons passer la parole à Félicien Kitoko qui est à Bukavu. Félicien, vous avez écouté le reportage de Mimi qui est à Mbandaka, donc capitale de l'Équateur et province où j'ai déclaré la maladie. Et vous avez aussi écouté le docteur Lumami. Quelle est votre question, docteur?
En suivant d'abord ce qui a été dit par le reporter qui est à Mbandaka, je voudrais d'abord saluer au moins cet engagement précoce dans la lutte qui a été menée par les autorités congolaises, parce que d'habitude, le gouvernement toujours tenant à réagir dans de telles situations, mais pour une fois, nous avons vu vraiment une réponse assez précoce et même coordonnée de la part du gouvernement pour répondre et faire face à cette épidémie d'Ebola, parce que même nous qui sommes à Goma, où nous sommes dans une ville frontalière, nous avons vu déjà des mesures être prises, des thermomètres laser qui sont déjà disponibles au poste frontalier. Et cela nous rassure déjà, et même au niveau de toute la population, on fait se dire que quand même il y a des mesures qui sont prises. Mais peut-être, docteur, j'avais juste une petite question. J'aimerais savoir, parce qu'on parle beaucoup que la maladie est en train d'être contenue, on est en train de limiter la progression, j'ai lu des articles là-dessus. Est-ce que il peut nous dire à quand il y a la dernière notification de nouveaux cas qu'il y a eu par rapport à Ebola ou au cas suspect, date de quand?
Docteur?
Oui, merci, monsieur de Goma, je vous ai suivi. Et je vous remercie pour les encouragements pour le gouvernement national. Effectivement, nous avons reçu un engagement précoce, un financement précoce qui nous a permis de nous engager précocement à cette lutte. Quant au nouveau cas, les infos que j'ai à ma disposition sont les informations de la base venant du comité international scientifique et technique qui coordonne la lutte au niveau de l'Okolia. À la date du 2 septembre, on a eu 5 nouveaux cas qui se sont ajoutés aux cas que nous avions enregistrés en date du 28 août. Faisant donc de 53 cas que nous avions au 28 août, ramenons ces 53 cas à 58 cas à la date du 2 septembre 2014. Vous voyez que nous avons envoyé sur le terrain plus de 28 épidémiologistes qui font le travail de terrain, qui font une fouille, qui font une investigation village par village, domicile par domicile, à la recherche de toute personne dans ce secteur et même en dehors qui porterait des signes qui puissent faire suspecter la maladie à virus Ebola. On a simplement enregistré 5 nouveaux cas depuis le 28 jusqu'au 2 septembre qui se sont présentés avec des symptômes pouvant faire penser à Ebola. Et donc, on a pour l'instant cumulé 58 cas que nous avons enregistrés depuis que nous avons déclaré l'épidémie en date du 24 août 2014. Cette évolution pour nous est une bonne évolution. Je peux vous dire qu'un autre indicateur de la bonne évolution, c'est le nombre d'alertes que nous recevons de partout à travers le pays. On a reçu des alertes de Boéné, même de Mbandaka, de Kinshasa, de Rungu en province orientale, de Mweka au Kassai oriental, de Lodi au Kassai oriental, et de Mweka, je dirais, au Kassai occidental, de King aujourd'hui au Bandundu. On m'a signalé de Kivu là aujourd'hui au Bas-Congo. Je peux vous garantir que notre satisfaction est basée sur le fait que de toutes les alertes et de tous les échantillons reçus, cela est vérifiable par vos sources indépendantes, nous avons eu simplement 13 tests confirmés à la fois par le laboratoire de l'INRB Kinshasa et le laboratoire de contrôle de qualité de Libreville au Gabon, simplement 13 échantillons positifs et un indice très important, tous les 13 échantillons sont ceux provenant de l'Okolia dans la zone française de Boéné. Notre peur a été que un échantillon provenant du Kassai occidental par exemple, ou Kassai oriental par exemple, venait être positivé au laboratoire. Ça aurait été une expansion de l'épidémie pour nous, mais le fait que tous positifs viennent de Boéné, l'épicentre que nous connaissons déjà, c'est rassurant pour nous. C'est très rassurant et nous disons encore une fois, le Congo a une épidémie que nous allons juguler en temps normal et mon ministre a déjà décidé qu'en 45 jours, nous devons nous en défaire. 45 jours, c'est le travail technique que nous allons faire, sans compter le travail programmatique, logistique, qu'il faut rajouter à ce temps-là. Mais nous pensons et nous sommes conscients, nous sommes rassurés, avec l'expertise que nous avons, avec le travail que nous faisons sur le terrain, qu'en 45 jours, tout au plus en 3 mois, nous allons finir cette épidémie qui nous a surpris.
Technique skepsis. Réalisation Georges Léonard Sagnon. Assisté de Chouchou Kawa. Dans nos murs ici à Washington. Micro Khalil Gay, au revoir et à la semaine prochaine.